voudrais que nous partagions la parole de Dieu avant de prendre la Sainte Cène, afin que plusieurs aient la possibilité de prendre une victoire. Une victoire. Le titre de ma prédication, il n'est pas compliqué. C'est une question. Résistez-vous à Dieu ou résistez-vous au diable? Normalement, si vous écoutez avec les oreilles de votre cœur, dans 45 minutes, vous le saurez. On va lire quelques lectures. On va lire un texte déjà pour montrer dans quel domaine on peut résister à Dieu. Romains chapitre 13. Je vous encourage à prendre les lectures. Je me souviens que lorsque je me suis tourné vers Dieu, je prenais toutes les lectures. Je ne connaissais rien de la Bible. Et petit à petit, je reméditais les textes que le pasteur présentait lors des cultes. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai mémorisé ces versets. Il y en a qui ont oublié que l'horaire. Ça peut arriver. Romains chapitre 13, verset 1er. Regardez. Vous allez voir toutes les lectures. Si vous les relisez dans la semaine, si vous les mettez ensemble, ça fera comme un puzzle qui vous permettra de comprendre tout ce que vous n'aurez pas compris pendant la prédication. Car je sais très bien qu'on ne peut pas tout retenir. Romains chapitre 13, verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc quand vous n'obéissez pas aux autorités, en vérité, vous résistez à Dieu. Même si ce sont des autorités déléguées. Deuxième texte. J'hésite entre plusieurs textes. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Verset 6. Épître de Jacques chapitre 4 verset 6. Dieu accorde une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu résiste aux orgueilleux. « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Dans ce texte dont nous voyons deux choses, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais que nous, en nous soumettant à Dieu, nous résistons au diable. À méditer. On y reviendra si on a le temps. Dans 1 Pierre au chapitre 5, il nous est rappelé au verset 5 cette même vérité que Dieu résiste aux orgueilleux. Et au verset 8, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il est écrit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Proverbe 1, 32. Proverbe. Je ne sais pas si vous avez déjà médité ce verset. Il y a beaucoup de versets comme ça. Il y a tellement d'enseignements dans un chapitre des Proverbes que chaque verset peut servir pour faire une prédication. Ou étayer une prédication. Proverbe 1, verset 32. Proverbe 1, verset 32. Car la résistance des stupides les tue. Et la sécurité des insensés, enfin une pseudo-sécurité, vous le comprenez, les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Maintenant, nous allons faire la lecture importante pour comprendre ces quelques lectures que nous venons de faire C'est la désobéissance de Saül dans 1 Samuel au chapitre 15 et au verset 12. Dieu avait demandé à ce roi qui avait très bien commencé de offrir en sacrifice, de sacrifier plutôt tous dans le terrain ennemi. Et il ne l'a pas fait. 1 Samuel chapitre 15 verset 12. Je vous encourage d'ailleurs chez vous après à lire dans la semaine les textes et la suite pour voir comment cet homme a évolué, a fait évoluer, a avancé. 1 Samuel chapitre 15 verset 12. Il se leva, c'est Samuel, il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné en passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Ça fait bien ça, il va à Gilgal pour offrir le sacrifice, ça représente le gars qui va à l'église, vous voyez, c'est ça que ça représente. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites. » Parce que le peuple, oui, il est pour rien lui, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin les brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme un roi. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Et ça, c'est toujours le problème, où on craint les hommes, où on craint Dieu. Alors, c'est un pseudo-semblant de repentance, mais la suite vous prouvera que ce n'est pas une repentance, c'est, il ne sait pas quoi faire devant le prophète, et ça va très mal se terminer. La semaine dernière, j'ai terminé le culte en vous demandant de méditer deux textes. Je ne sais pas si vous l'avez fait. De textes qui nous apprennent à comprendre certaines choses. Dans Jacques, il nous est dit à trois reprises, dans le texte que je voulais laisser, que l'on peut se tromper soi-même par de faux raisonnements. Dans l'épître de Pierre, on voit qu'il y a certains efforts à faire pour participer à la nature divine. Et comment ne pas être aveugle spirituellement? Beaucoup de chrétiens sont aveugles. Beaucoup de croyants engagés sont même aveugles parce que leur vie n'est pas entièrement au Seigneur. Nous n'aimons pas que les autres nous trompent. Nous supportons pas d'avoir été trompés. Oui ou non? Nous n'aimons pas dans bien des domaines. Mais si nous savions le nombre de fois où nous sommes trompés nous-mêmes, si nous avions réagi envers nous-mêmes comme nous avions réagi envers les autres, nous ne nous supporterions plus de ce que nous nous sommes trompés autant de fois. Alors, je voudrais vraiment, sous le regard de Dieu ce matin, que nous comprenions certaines choses, surtout ceux qui veulent le réveil, ceux qui veulent être prêts quand Jésus va revenir. Car il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts, j'invente rien. Combien de vierges folles sont parmi nous, des croyants qui n'ont pas d'huile, qui n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit, et qui ne s'imaginent pas, tout en attendant le retour du Maître, qu'ils ne sont pas prêts. Combien parmi nous sont semblables à ce serviteur qui a enfoui le talent, et qui s'entendra dire des choses terribles par rapport à sa paresse. Mais bien sûr, nous considérons la paresse comme quelque chose de pas très grave, nous considérons la négligence comme quelque chose de pas important. Dieu ne parle pas du tout de la même manière. Le roi Saül, vous l'avez vu, se targuait d'obéir à l'Éternel, alors qu'en vérité, il résistait à Dieu. Et nous ne nous rendons pas compte que lorsque Dieu nous parle, il parle pour nous. Quelqu'un me dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas ma belle-mère ce matin, c'était pour elle. Écoutez, moi, je crois que Dieu, il sait qu'il y a dans une église, et je crois qu'il parle aux gens qui sont présents. Et qu'il parlera à la belle-mère, à la fois où elle viendra. Voilà. Que c'est vraiment triste de dire, c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Mais bien sûr, c'est dommage. Mais je crois quand même qu'il faut arrêter de se tromper de cette façon. Nous allons lire un autre texte, c'est David. Regardez, gardez la page de 1 Samuel, parce qu'on a pas, on y reviendra. Je veux qu'on prenne la Sainte Cène après, parce que plusieurs sont dans cette situation de résistance et ils ne le savent pas. Plusieurs parmi vous, mes frères et sœurs. Je veille sur vos âmes, vous le savez, un pasteur, ça veille sur vos âmes. Vous n'avez pas envie d'entendre quelque chose qui vous ferait plaisir, ça c'est pas important. Vous avez besoin d'entendre ce que l'Esprit a à vous dire. C'est ça que nous avons besoin d'entendre. Dans le psaume 132, David exprime la joie du pardon. Il a beaucoup, beaucoup attendu. Il l'a payé très, très cher parce qu'il le dit, tant que je me suis tu, verset 3, psaume 32, mes os se consumaient. Vous savez, le péché, on en souffre longtemps. Tant qu'on ne le règle pas. C'est pas compliqué. Quelqu'un m'a dit, on en souffre combien? Combien de temps on souffre du péché? Mais jusqu'à ce qu'on le règle. Dès qu'on le règle, on n'en souffre plus. Ce n'est pas plus compliqué. Vous traînez 3 ans avec un péché, trois ans vous souffrirez. Ça dure 3 secondes, ça durera 3 secondes. Voilà. Psaume 32, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. 32. Non, j'ai dit 32. Non, madame Régnier, vous serez exclue de l'Assemblée. Psaume 32, verset 3. Et tous les autres qui ont dit 132. Quand je me suis tu... Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais, etc., etc. Mais regardez, ce qui nous intéresse ce matin, ce n'est pas la victoire de David. Ce qui nous intéresse, c'est un certain enseignement à partir du verset 9. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Lorsque nous ne nous approchons pas de Dieu, le Seigneur nous compare à des bêtes qui sont bridées et qui ne peuvent donc pas avoir cette bénédiction. Mes frères et sœurs, c'est une affaire sérieuse. Si quelque chose, si quelqu'un, serait-ce même le diable, qui vous empêche de vous approcher de Dieu, vous vous êtes fait piéger. Croyez-moi. Je ne parle pas de ces cultes de 3 minutes qui ne correspondent peut-être pas à grand-chose. Dans le psaume 73, c'est Asaph qui exprime la même chose. Il va beaucoup, beaucoup se tromper. Il va commencer à regarder les méchants qui prospèrent, les inconvertis qui fleurissent, etc. Il est très, très, très contrarié. Lui, il sert Dieu tous les jours. Et voilà, il est dans une très grande frustration. Et là aussi, ça exprime le fait que quand on réfléchit avec son intelligence, ça ne produit rien. C'est écrit au verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus, la difficulté fut grande. Au verset 17, il explique ce qui se passe, que la solution, elle est dans le sanctuaire. Et au verset 21, lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Dans plusieurs psaumes, nous voyons donc cette possibilité que l'on a de résister à Dieu. Et c'est terrible parce que le temps passe et la bénédiction ne vient pas. Asaph, David, pendant longtemps, ont souffert parce qu'en vérité, ils aimaient Dieu, mais ils n'offraient pas le sacrifice de justice qu'ils auraient dû offrir. D'ailleurs, c'est pour ça, regardez dans le psaume 51... et non pas 151. Dans le psaume 51, David, c'est le fameux jour où il va être confronté à la vérité par le prophète Nathan. Vous le lirez, c'est écrit même au début, donc on est sûr que c'est vrai. Il va être confronté, il va demander pardon de tout son cœur, de tout son cœur à Dieu. Mais pendant le temps qui a coulé, où il n'avait pas mis sa vie en règle, il offrait des sacrifices. Vous savez, on peut offrir on peut chanter des cantiques et ne pas avoir sa vie en règle. C'est pour ça qu'il va dire ceci au verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice. Et je l'ai déjà dit, les sacrifices de justice, c'est des sacrifices d'obéissance. Ce n'est pas parce qu'un Israélite offrait un agneau à Dieu qu'il obéissait à Dieu. Et on va le voir, il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu où on le comprend très bien. Ce n'est pas parce qu'on offre un sacrifice à l'Éternel qu'on est dans un esprit d'obéissance. Et la question que je nous pose est celle-ci. Est-ce que nous sommes sûrs d'obéir à Dieu? C'est une question sérieuse. Surtout pour tous ceux qui veulent voir la gloire de Dieu, qui veulent voir le réveil, qui veulent voir surtout leurs prières exaucées. Parce qu'on peut faire obstacle à nos prières, croyez-moi. Avons-nous vraiment fait ce que Dieu nous a demandé? Est-ce qu'on a compris ce qu'on vient de chanter? Par ta puissance, brise ma résistance. Saül voulait offrir des sacrifices avec les animaux qu'il avait épargnés. C'était très très bien. Pour le profane, on ne peut que dire, mais c'est extraordinaire. Mais quelle délicatesse. Mais vraiment, il fallait y penser, quoi. Il va épargner les meilleurs bœufs, les meilleurs agneaux, les meilleurs béliers pour offrir tout ça à Dieu. Mais fallait y penser en plein combat. Mais en vérité, il n'a pas obéi à Dieu. Est-ce que c'était biblique d'offrir des sacrifices? Oui. Mais en vérité, il désobéissait. Alors nous pouvons faire certaines choses, et je suis bien placé, je suis très très bien placé, parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui sert Dieu, et ce n'est pas parce que je sers Dieu que j'ai toujours obéi à Dieu. Vous le comprenez facilement, c'est une évidence. Mais c'est valable pour moi, mais c'est valable pour vous. C'est plus facile à comprendre si vous me prenez un exemple. Ce n'est pas parce que je prêcherai bien, que je m'appliquerai, que je ferai ci, que je travaillerai même 20 heures par jour, si les 4 autres heures, je ne vis pas dans l'obéissance à Dieu, ça ne plaît pas à Dieu. Et il faut comprendre ce verset, qui est un des versets clés pour comprendre la résistance, que la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que dans les églises, on ne tremble plus à la parole. On juge la parole. Les gens ne sont pas complètement convertis. Ça fait qu'à la place de laisser la parole de Dieu les juger, pas les condamner, mais les aider, ce sont eux qui jugent la parole. Et ça devient un véritable problème, ça. De s'autoriser à dire, oui, ça c'est écrit, mais enfin quand même, on ne va pas. Et voilà, ça commence comme ça. Regardez avec moi dans Ésaïe 66. Dans Ésaïe 66, le Seigneur indique certaines choses qui nous amènent dans ce sujet. C'est un sujet qu'on ne pourra pas le terminer ce matin, on le terminera mardi, mais c'est un sujet qui doit nous permettre de réfléchir. Dans Ésaïe 66, Dieu rappelle une grande vérité. Ésaïe 66, verset 1, on l'a chanté tout à l'heure. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Alors, est-ce que ça vous intéresse? Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole, sur celui qui tremble à ma parole. Qu'allez-vous faire ce matin de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est quelque chose d'important pour vous? Est-ce que c'est un bouquin comme les autres? Est-ce que c'est un livre religieux? Ou est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Voilà. Voilà ce que Jésus a voulu que nous comprenions. Et regardez la suite. Moi, ces versets, je ne les ai jamais compris. jusqu'à ce que je m'attaque à ce sujet. Verset 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau, tout ça c'est biblique. Hein. Immoler un bœuf, sacrifier un agneau. Mais regardez, celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc, une véritable abomination en Israël. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Alors, il y a une explication. Elle dit dans la suite. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix, et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé, et qu'ils n'ont pas répondu. Voilà le problème. Parce que j'ai parlé, et qu'ils n'ont pas écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Et le problème, il est là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fait, craindre Dieu? Peut-être que vous venez pour les premières fois, et vous dites, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Trembler à sa parole. Dieu porte ses regards sur l'homme qui tremble à sa parole. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça... Eh bien, ça veut dire que quand Dieu me montre quelque chose, j'obéis immédiatement. Quand Dieu a dit à Abraham, va sur le mont Morija et offre ton fils, il l'a fait quand? De suite. Le lendemain matin, il est parti. Il y en a qui réfléchit 3 ou 4 mois, je vous dis, avant d'obéir. Craindre Dieu, c'est obéir immédiatement. C'est vouloir honorer la volonté de Dieu. C'est important. Est-ce que pour vous, c'est important de connaître la volonté de Dieu ou est-ce que vous vous contentez de l'à peu près? Beaucoup de chrétiens se contentent de l'à peu près. Surtout, ils viennent à l'église pour mettre Dieu de leur côté et pour avoir la bénédiction. C'est pas ça, craindre Dieu. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, je viens à l'église pour être béni. Mais bon, on n'a pas jugé. Et puis, ce n'est pas interdit non plus de venir pour être béni. Mais ce n'est pas ça, la vie spirituelle. On vient à l'église parce qu'on veut que Dieu nous parle pour savoir ce qu'il faut faire pour lui obéir. Et il n'y a pas quelqu'un qui craint Dieu, il n'est pas tout le temps dans les excuses. Voyez Samuel, il a dit, voilà, mais oui, j'ai bien observé la parole de l'Éternel. Et puis, tu sais, voilà, le peuple, il a voulu ci, il a voulu ça, il y a une petite repentance. Quand David a été confronté à son péché, il a de suite dit, j'ai péché contre Dieu seul. Pourtant, le péché de David était beaucoup plus grave que le péché de Saül. Moi, je peux vous dire que j'aurais préféré le péché de Saül. Croyez-moi, hein, à choisir, ça serait vite réglé. Le péché de David était beaucoup plus grave. L'adultère et la suite, vous connaissez, faire assassiner un de ses lieutenants, c'est quelque chose de profondément plus grave. Mais de suite, quand il a été confronté à la vérité, il s'est profondément repenti. Saül, lui, non, il cherche des excuses. Vous savez, quand on cherche des excuses, oui, mais je sais qu'il faut que je me repente, je sais qu'il faut que je rende, tiens, j'ai entendu une prophétie, oui, on m'a prêté de l'argent, j'ai promis que je le rendrai, je le rends pas, puis le mec, il a du pognon, c'est pas grave. Et oui, celui qui est concerné, il devrait de suite voir la personne. C'est ça, craindre Dieu. Trembler à sa parole, c'est ça. C'est vrai, mais c'est vrai quand même. J'ai prêté de l'argent, on m'a prêté de l'argent. Mais qui je dois le rendre? Est-ce que c'est parce que c'est un chrétien qui a de l'argent, on peut se dispenser de le lui rendre? Si vous pensez comme ça, vous attendrez longtemps pour que vos prières soient exaucées. Voilà, c'est ça. On n'est pas sérieux. On cherche Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, il cherche Dieu. Quand il se tient devant Dieu le matin, il cherche Dieu. Il n'est pas là, Seigneur, bénis-moi. Il faut le faire. Je crois que c'est important de demander tous les jours. Moi, je demande à Dieu la bénédiction sur mon épouse, sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur l'assemblée, sur la ville, sur le pays, sur les présidents et tout ce que vous voudrez. Il faut demander la bénédiction. Mais demander la bénédiction sans chercher Dieu, ça ne correspond pas forcément à grand-chose. Craindre Dieu, eh bien, c'est préférer perdre l'amitié de quelqu'un que déplaire à Dieu. Je peux vous dire que j'ai perdu plusieurs amis pour leur avoir dit la vérité. C'est triste, mais je ne le regrette pas. Parce que je préfère perdre l'amitié de quelqu'un que perdre l'approbation de Dieu. Craindre Dieu, c'est ça. Il y a des gens, non, ils ne veulent pas d'histoire, ils vont pas se dire, non, tant pis, on ne dit rien, on ne va pas se fâcher et tout. Mais bien sûr qu'il vaut mieux éviter. Mais ça peut arriver de perdre l'amitié de quelqu'un, et même de quelqu'un de sa famille, pour vouloir garder l'approbation de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, il est convaincu de la sagesse de Dieu, de la souveraineté de Dieu. Vous avez vu la suite, ils se complaisent dans leur voix, voyez. Mais en fin de compte, le résultat, c'est que quelqu'un qui fait ce qui lui plaît, en vérité, c'est il peut apporter une offrande à Dieu, c'est comme s'il adorait des idoles. Vous l'avez lu comme moi ? C'est comme s'il adorait des idoles. Quelqu'un qui craint Dieu, il tremble à sa parole. Quand quelque chose se passe dans une ville, comme ça s'est passé cette semaine à Toulouse, on n'était pas en train de dire, mais comment ça se fait ? Moi, on m'a dit que Dieu régnait. Mais vous allez voir, mes frères et sœurs, que la rébellion, ça ouvre des portes. Et il faut que vous compreniez bien quelque chose. Si Dieu n'avait pas voulu que ça arrive, ça ne serait jamais arrivé. Je peux vous dire que s'il n'y a pas eu de guerre nucléaire, c'est parce que Dieu a empêché un malade d'appuyer sur un certain bouton. Je peux vous le dire. Mais si Dieu le permet un jour, ça peut arriver. Parce que je peux vous dire que si Dieu ne protégeait pas, il y a longtemps qu'il y aurait eu des guerres nucléaires. Croyez-moi, avec les fadas qu'il y a, je peux vous le dire. Mais je suis sérieux. Croyez-moi, il y a longtemps qu'il y aurait eu une guerre nucléaire. Qui dira qu'une chose arrive dans une ville sans que le Seigneur ne le permette ? C'est la nuit du lundi à mardi, quand vous avez appris ce massacre dans l'école juive, je me suis réveillé pour prier pour la famille de cette petite qui a été massacrée. Et j'ai prié pour cette famille. Et ce verset m'est venu à mon cœur, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis ? Et ce verset également est venu dans mon cœur pendant que je priais, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je crois que lorsqu'un homme demeure à l'abri du Très-Haut, Dieu le protège. Dieu le protège. Vous le croyez ? Mais Dieu peut permettre certaines choses et c'est ce que je veux que vous compreniez, que nous comprenions. Quelqu'un qui n'obéit pas et qui pourtant offre des sacrifices à Dieu est comme quelqu'un qui apporte une offrande et qui en même temps offrirait du sang de porc. Et dans l'Ancien Testament, laissez-moi vous dire que ça représente une grande abomination. Il faut comprendre ces choses. Voilà, servir Dieu tout en désobéissant. Le problème, il est là. Et nous devons nous poser la question, chacun d'entre nous, en tous les cas, vous qui êtes baptisés par immersion, vous qui avez fait le choix un jour de vous repentir, de vous convertir, de suivre Jésus comme sauveur et comme Seigneur, vous devez avoir cette honnêteté où vous en êtes avec votre service, mais surtout avec votre obéissance. Car je vous le dis, je le sais, on peut servir Dieu sans lui obéir. Vous l'avez compris ça. Je sais ce que c'est d'obéir à Dieu à 90% ou à 95% et de ne pas obéir le petit peu de temps à regarder des bêtises à la télé, pas forcément des grossièretés, mais des choses qui peut-être ne sont pas utiles, j'en sais rien. Enfin, on le sait, je crois que le Saint-Esprit, il montre à chacun ce qui ne va pas. La parole de Dieu ne peut pas être plus claire. Vous l'avez lu avec moi, la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Est-ce que vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que vous diriez si vous appreniez qu'un chrétien pratique de la sorcellerie ? Qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien, il faut me répondre. Mais c'est grave, est-ce que vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que vous diriez d'un chrétien qui se prosterne devant des idoles ? Mais serait-elle en or, en plâtre, en fer, en... Qu'est-ce que vous diriez ? Comme ça nous a été mardi, il n'a pas compris. Hein ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui ? Mais mes frères et sœurs, c'est écrit. C'est écrit pour nous faire réfléchir. Ça n'a pas été écrit pour que Dieu, excusez-moi l'expression, cafarde le péché de Saül. Quelqu'un un jour m'a dit, mais Dieu est un cafardeur. Ouais, mais ce n'est pas bien. Dans la Bible, il parle du péché des gens. Il critique les gens. Quelqu'un me l'a dit. J'ai dit, non, ça n'a pas été écrit comme ça. Ça a été écrit pour que nous comprenions les conséquences du péché. Dieu ne cafarde pas. Le Seigneur, il nous révèle ce qu'on a besoin de savoir. Croyez-moi, la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. Après, on se demande, mais pourquoi Dieu n'agit pas ? Pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas dans les églises ? Oui, j'ai parlé d'un verset sur les autorités. Quand je vois certains chrétiens, je le répète, comment ils parlent du président de la République ? Alors, pour peu que certains chrétiens soient plus appointés dans un sens ou dans l'autre, ils se font piéger. Mes frères et sœurs, nous devons honorer les autorités et prier pour les autorités. On est à quelques semaines des présidentielles, il faut prier pour qu'il y ait l'homme que Dieu voudra. Amen. C'est important parce qu'en fonction, écoutez bien, vous allez le comprendre, je n'aurai pas le temps de finir aujourd'hui. mais en fonction de certains programmes, parce que moi je ne sais pas ce que vous voyez quand vous lisez un programme, mais quand vous lisez un programme qui favorise par exemple l'homosexualité, laissez-moi vous dire qu'on ouvre les portes. On ouvre les portes à ce qui s'est passé cette semaine. Et de plus en plus, car la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ne vous étonnez pas, et ne nous étonnons pas. La colère de Dieu, ce n'est pas une blague. La colère de Dieu vient. Nous voyons les prémices de la colère. Après l'enlèvement de l'Église, ça sera le summum de la colère. C'est pour ça qu'il vaut mieux être prêt pour le premier voyage, croyez-moi. D'être vraiment prêt pour le jour où Jésus reviendra nous chercher. Et dans l'Église, dans non-Église, il y a des frères et sœurs qui ne sont pas prêts parce que vous résistez à Dieu. Le Seigneur vous a montré et vous ne l'avez pas fait. Le Seigneur vous a parlé et vous vous êtes autorisé à trouver des excuses, comme le roi qui s'est autorisé à dire « Mais non, mais moi j'absolue, écoute, j'ai fait ce que j'avais, écoute Samuel, te casse pas la tête, c'est rien, c'est pas grave. » Il ne pensait pas que ça allait en arriver là. Et nous devons être sérieux. La résistance est aussi coupable que la divination. Regardez ce qui se passe quand un pécheur résiste à Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, son cœur s'endurcit. Ça ne serait pas trop grave s'il était dit, bon, si aujourd'hui tu entends sa voix, eh bien, écoute, fais-le demain. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, parce qu'il y a des lois. Mais comme nous, on n'est pas trop spirituel, on ne comprend pas les lois spirituelles. Quand on résiste, notre cœur s'endurcit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, à la fin de leur vie, n'arrivent pas à croire au pardon de Dieu parce que leur cœur est profondément endurci. Ceux qui disent, ben je me convertirai quand je serai vieux. Ben j'ai 20 ans, j'ai 25 ans, je vais attendre 50 ans, je vais vivre ma vie, et à 60 ans, 70 ans, quand ça va basculer un peu, eh ben je vais me convertir. Ça tient debout. Est-ce que ça tient debout? Ben oui, ça tient debout. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr que vous viviez jusqu'à 60 ans. Et c'est pas sûr qu'à 60 ans, votre cœur soit tendre. Parce que si de 20 ans à 60 ans, vous endurcissez votre cœur, laissez-moi vous dire que vous ne croirez pas au pardon. C'est comme ça. Ne pensez pas que vous aurez, vous, plus de latitude que tous les gens qui se sont endurcis. Ça, c'est de l'orgueil. Et Dieu, c'est clair, résiste aux orgueilleux. Et si les chrétiens ne voient pas, c'est qu'ils n'entendent pas. C'est parce qu'ils n'obéissent pas. Et ils obéissent à l'ennemi. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ouvrent des portes à l'ennemi. Alors on peut se dire, mais comment ça se fait? Un chrétien peut ouvrir la porte au royaume des ténèbres. Moi, je suis passé des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière. Et voilà que maintenant, on me dit ça. Ben oui, le diable vit dans le royaume des ténèbres. Vous êtes d'accord? Le royaume du diable, c'est les ténèbres. Mais la désobéissance à Dieu, à l'autorité de Dieu, ouvre une porte à la puissance des ténèbres. Vous rappelez ce verset de Jésus? Moi, je ne l'ai pas toujours compris. Dans Matthieu 6, 23, ne le cherchez pas. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, donc tout ton corps sera dans les ténèbres. Méditez-le, ce verset. Et un chrétien peut vivre dans les ténèbres. C'est clair. Lorsque quelqu'un désobéit aux lois de Dieu, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, Dieu, j'obéis à Dieu. Moi, les pasteurs, j'obéis pas. Maudit soit l'homme qui se confie. En plus, on a le toupet de... Vous voyez? Mais il y en a qui me l'ont dit, ça. Bon, mais quand je vois aujourd'hui où ils en sont, je pense qu'ils ne devaient pas beaucoup obéir à Dieu. Mais lorsque quelqu'un désobéit à Dieu, contre les lois de Dieu, ou contre les autorités que Dieu a placées, si vous avez encore vos parents, est-ce que vous respectez vos parents? Est-ce que vous respectez, est-ce que vous honorez vos parents? Ou est-ce que vous dites, moi maintenant, mais je suis majeur. Mon père, j'en ai plus rien à cirer. Ma mère, la pauvre folle, eh bien, qu'elle se débrouille. Je suis majeur, je fais ce que je veux. J'en profite pour vous dire que dans la Bible sataniste, le premier commandement, c'est fais ce que tu veux. Je parle de la Bible sataniste. Fais ce que tu veux. C'est le premier commandement. Et vous, quand on le lit pour la première fois, on dit, mais c'est pas... Mais oui, mais c'est la porte ouverte à la rébellion. Ça s'appelle de la rébellion. Quand on se moque du président de la République, moi je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais je n'ai pas à me prononcer. Moi, je prie pour lui tous les jours. Parce que la Bible dit de prier avant toute chose pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est écrit ou c'est pas écrit? Mais ce n'est pas une question de... Quelqu'un m'a dit, ah bon, vous priez pour le président, pour qu'il soit béni? Mais non. On prie pour que la volonté de Dieu soit faite. Pour que la pensée, la meilleure des pensées, lui soit communiquée. Et c'est écrit avant toute chose. Il y a deux cas dans le Nouveau Testament, il y a d'autres cas, mais là c'est bien écrit, où justement on voit qu'on peut donner accès au diable. Quand il est dit, dans le domaine de se dépouiller, de se revêtir, il donne tout un tas d'instructions. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Voyez la colère, mais tous les péchés, tous, donnent accès au diable. Si on ne le règle pas, de suite. Dans le problème d'adultère, vous savez, quand il y avait dans l'église un jeune homme qui couchait avec sa belle-mère. Vous connaissez cette histoire? C'est une des raisons pour laquelle Paul a écrit à cette église, parce qu'il y avait de la débauche dans l'église, et les anciens n'avaient pas réglé le problème. Alors il leur fait un sermon, et ils vont le régler comme il faut. Mais dans la deuxième lettre, il leur dit, attention quand même de ne pas être trop sévère aussi envers le gars. Vous connaissez cette affaire? Bon, je résume. Et il leur dit, attention, attention, afin que vous ne donniez pas à Satan l'avantage. Il faut faire attention, même dans les problèmes de discipline. Parce qu'autant, il faut être plein d'affection, mais il faut exercer la discipline dans l'église. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Et si on connaît un frère qui est dans le péché, il faut le dire. Il faut nous en parler. C'est normal. On n'a pas, non, je ne vais pas cafeter. Mais qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons la sainteté dans l'église? Si le pécheur, on n'a pas à s'occuper des pécheurs. Mais est-ce qu'on doit s'occuper du péché dans l'église? Oui. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est écrit. C'est pas écrit. C'est pas pour le mettre dehors. C'est pour lui donner la possibilité de se repentir. C'est ce que Paul dit quand il explique que j'ai livré Hyménée et Alexandre et Philette à Satan afin qu'ils apprennent. Il les a mis dans le monde. Il les a remis dans la condition de pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont perdus. Et dans l'église, on devrait quand même avoir ce souci que si un chrétien... Si un pécheur qui arrive, on a des filles de la rue qui viennent, on les aide à découvrir l'évangile. Attention, ne faisons pas d'amalgame. Mais quand un pécheur vient, il faut l'accueillir comme il est. Ce n'est pas lui qui va souiller l'église. Lui, on va l'amener au calvaire. Mais quand un chrétien, quand un pécheur passe des ténèbres à la lumière, qui prend le baptême, il faut veiller à ce qu'il marche dans la sanctification. C'est sérieux cette affaire. Parce qu'on croit parfois résister au diable, et en vérité, on résiste à Dieu. Et tout est fait, tout est fait. Je ne sais pas comment vous analysez, comment les journalistes présentent, etc., les choses. Mais tout est fait pour que nous désobéissions aux lois de Dieu. Tout est fait. Pourquoi? Parce qu'en désobéissant aux lois de Dieu, on ouvre des portes aux puissances de ténèbres. C'est pour ça que nous voyons de plus en plus dans nos sociétés des choses qui se passent. J'allais dire un exemple, c'est pas bien. Mais par exemple, quand des jeunes acceptent des relations sexuelles sans être mariés, vous croyez qu'ils sont dans la bénédiction? Ils ouvrent la porte aux puissances de ténèbres. Quelqu'un va dire, oh non, il exagère là. Là, monsieur Gauss, je pense qu'il tombe dans le légalisme. On en reparlera. Et voyez, comme il y a un aveuglement, il y a un véritable aveuglement, c'est accepté aujourd'hui ça dans les églises. Et c'est pour ça que nous verrons l'apostasie rentrer dans les églises, c'est pour ça qu'il est même dit que le Satan ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Parce qu'on n'aura pas veillé à la sanctification, on n'aura pas veillé à ce que l'on chante, par ta puissance brise soumet ma résistante. Tout est fait, il vous faut prier, il me faut prier pour que le Seigneur nous éclaire. Est-ce que je suis soumis? Quelqu'un m'a dit dernièrement, monsieur Gou, vous savez, si vous ne voulez pas choper de manche, il vous faut acheter le coyote. J'ai dit, mais je n'ai pas besoin du coyote. Parce que je veux respecter les lois. Ce n'est pas normal qu'un chrétien s'autorise, parce que c'est 3h du matin sur l'autoroute et qu'il a son petit coyote qui lui signale les radars, parce que c'est bien de ne pas choper de manche. Mais vous n'en attraperez pas non plus si vous conduisez comme Dieu le veut. Vous allez me dire, vous n'allez pas me dire, si je roule à 132 ou 134, c'est vrai qu'à 134, vous ne vous ferez pas flasher. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est un état d'esprit en vérité. C'est un état. Est-ce que Dieu peut nous tester au travers de ces choses? Eh oui. Et nous ne nous rendons pas compte que toutes ces petites choses cumulées font de nous des rebelles. Mais non, moi je suis un chrétien, j'aime Dieu, attention. Hein. J'offre des sacrifices de louanges, je donne ma dîme et offrandes. Moi je suis un chrétien bien. Quand quelqu'un désobéit, il ouvre la porte aux puissances de ténèbres. Quand une église désobéit, elle résiste à Dieu. Et si Dieu dit d'une façon solennelle que la désobéissance et la résistance sont aussi coupables que la sorcellerie, je vais vous prouver, et je veux, pas moi, mais Dieu veut nous prouver que c'est la vérité. Vous savez, vous connaissez ce texte, je vous le lis. C'est dans Romains 6, 16. Ne savez-vous pas, qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Regardez le témoignage de Caïn. Vous connaissez Caïn. Caïn, Abel ont été au courant de ce qu'il fallait qu'ils fassent pour être au bénéfice du pardon. Donc, ils ont, avec les parents qu'ils ont eus, avec l'enseignement qu'ils ont eu, ils ont offert tous les deux un sacrifice. Ils ont choisi, un a choisi à sa guise, parce qu'il y a des gens qui choisissent ce qu'ils doivent faire. Et Caïn a offert un sacrifice qui n'a pas du tout plu à Dieu. Et qu'est-ce que... On va le lire quand même, on va le lire. Il faut prendre le temps, ce sont des choses trop sérieuses, mes frères et sœurs. Trop sérieuses, parce que vous savez, cette semaine, Dieu m'a vraiment montré que beaucoup de chrétiens pensent résister au diable, et en vérité, ils résistent à Dieu. Et ça, je crois que ça vaut la peine de l'expliquer. Quand même, Dieu nous aime, il ne veut pas que vous restiez dans l'égarement. Regardez, Genèse chapitre 4, on va lire le verset 5. Dieu n'apprécie pas, et pour cause, il fait un sacrifice qui représente, alors on ne va pas entrer là-dedans, ce n'est pas la peine, qui représente le salut par les œuvres. Et ça ne plaît pas à Dieu, ça c'est clair. Et si vous pensez que vous saurez par les œuvres, que ça ne plaît pas à Dieu, croyez-moi, que vous serez sauvé par les œuvres. Genèse 4, verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Alors, regardez sa réaction. Plutôt que de lui dire, bon, mais la prochaine fois, je ferai ce qu'il faut. C'est ça? C'est ça la crainte de Dieu. S'il avait dit, pardon Seigneur, pardon, pardon, pardon. Je ferai comme mon frère la prochaine fois, j'offrirai ce qu'il faut. Mais Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Vous allez me dire, oh, on va pas faire un flanc pour ça. L'irritation, l'abattement, c'est pas méchant. Est-ce que c'est méchant l'irritation et l'abattement? C'est pas quand même. Mais ça commence comme ça, quand on est vexé. Il m'a vexé. Et l'Éternel dit à Caïn, oui, ça n'a pas empêché Dieu de lui parler, mais pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Hein? Oui, si agis. Et si tu agis mal, tes péchés se couchent à la porte. À la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu est en train de lui dire, mais t'as le choix quand même. Et c'est Dieu qui lui parle, lui-même. C'est pour ça que même nous entendrions Dieu de sa voix nous parler, c'est pas pour ça qu'on va lui obéir. Mettez-vous bien ça dans la tête. Dieu lui dit, mais écoute, mais réagis bien. Mais t'as qu'à bien réagir. Par contre, si tu agis mal, la porte, elle va s'ouvrir. Et il a très mal réagi. Il avait le choix. La porte des ténèbres s'est ouverte. Ou bien il obéissait, ou bien il faisait sa propre volonté. Et s'il avait obéi à Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure, Dieu résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Quand nous obéissons à Dieu, nous résistons au diable et nous fermons la porte aux ténèbres. C'est pour ça que je vous dis que beaucoup de chrétiens pensent résister au diable, parce qu'ils prient fort. Ben, il y a des gens, voilà, moi je lis la puissance des ténèbres, je cite des versets bibliques, je lis et je délie, et avec ferveur, et je crie lorsque je prie. Ça peut, franchement, ça peut faire partie du combat spirituel, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on peut faire cela tout en continuant à désobéir à Dieu. On peut prier avec autorité, tout en désobéissant à Dieu. Et le diable, je peux vous dire qu'il doit rire de nos prières. On peut lier et délier tant qu'on voudra, le manque de soumission à Dieu annulera toutes les prières. on priera pour rien. D'ailleurs, c'est, Dieu le dit dans Isaïe, quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Voilà. C'est vrai qu'on est loin de la prière fervente du juste. Est-ce que nous voulons en arriver là? La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière du juste. Le juste, ce n'est pas celui qui va à l'église. Le juste, c'est celui qui obéit à Dieu à l'église ou à l'extérieur. Caïn a chuté comme ça. Il a été vexé parce que Dieu aurait préféré son frère, mais s'il avait offert le même sacrifice, il n'y aurait pas eu de problème. Le ressentiment est rentré dans son cœur, il s'est irrité. C'est pour ça que Dieu dit, si vous vous irritez, attention, ne vous mettez pas en colère, réglez ça. Ne t'irrite pas, ça serait mal faire. Vous connaissez tous ces textes. Cette vexation s'est transformée en amertume, l'amertume s'est transformée en haine, et la haine a provoqué quoi? Le meurtre, le crime. Voilà. Et ça a ouvert la porte, c'est lui qui a ouvert la porte. À Caïn, le péché se couche à ta porte. Si tu continues dans cette voie, tu vas ouvrir la porte à la puissance des ténèbres. C'est pour ça que la désobéissance et la résistance sont aussi coupables que la sorcellerie et l'idolâtrie et les idoles. Dans le roi Saül, c'est exactement pareil. Il a commencé à jalouser David. Un jour que David rentrait de la guerre avec le roi, ils étaient ensemble. Bon, c'est vrai que David avait tué Goliath, ça avait plu à tout le monde. Alors, il y avait des femmes qui avaient eu l'idée de composer un cantique. Bon, c'était bien, c'est bien, les sœurs, de composer des cantiques. Mais voilà, et ils arrivent dans la ville, sur leurs chevaux, pleins de gloire. Et voilà que les femmes commencent à chanter. Saül a tué ses mille, je ne sais pas la mélodie que c'était. Ah, Saül et son cheval, il devait être heureux de voir que voilà, les femmes de la nation le louaient. Et puis elles ont continué leur cantique, et David a tué les 10 000. Ah, bon, ce cantique il n'est pas terrible. Et la jalousie a commencé à rentrer dans son cœur. Regardez dans 1 Samuel 16, comment ça progresse, quand on commence à ouvrir la porte. Ce sont des choses sévères. C'est vrai que la prédication durera peut-être une heure, mais ça fait rien. Il faut que vous entendiez ces choses. On ne peut pas passer à côté. Regardez, 1 Samuel 16, 14. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On les lit, moi, la première fois, mais je n'y comprenais rien. Je ne pouvais pas comprendre une seule phrase de certains textes. 1 Samuel 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est cette affaire? S'il s'était repenti, Dieu l'aurait relevé. Mais il a commencé avec cette jalousie, en se trompant lui-même par de faux raisonnements. Le pasteur, plutôt le grand prophète d'Israël, lui avait dit, attention, c'est pas comme ça qu'il te faut faire. Mais oui, mais écoute, t'inquiète pas, c'est dans un but. Quand vous voyez comment a commencé Saül, cet homme qui respectait son père, comment il s'est fait du souci pour les ânesses de son père, vous connaissez l'histoire. Comment il a eu du tracas et il est parti, il a tout fait pour attraper les ânesses. Comment il respectait son père, comment il aimait Dieu. Si vous lui avez dit, le jour où il a cherché les ânesses, au fait, tu sais Saül, je te le dis, hein, un jour tu massacreras 85 pasteurs et toute leur famille sur un excès de rage. Il aurait dit, mais tu rigoles? Et c'est ce qui est arrivé. Cet homme qui aimait Dieu, qui respectait son père, qui a été choisi par Dieu, parce que c'était le meilleur en Israël, à cause d'un peu de jalousie, s'est transformé en malade, en fou furieux. Vous vous rendez compte, sur un accès de colère, il a fait tuer 85 prêtres, et toutes les épouses et tous les enfants, par jalousie. Voyez, est-ce qu'il n'avait pas ouvert la porte à la puissance des ténèbres, hein? Et nous ne nous rendons pas compte. C'est pour ça que même pour les élections, je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais vous devez lire les programmes. Et tout ce qui favorise l'immoralité, vous ne devez pas l'accepter. Amen. Vous ne devez pas l'accepter, à moins que vous vouliez voir la colère de Dieu venir. Parce que c'est comme ça que ça se passera, ne vous inquiétez pas. Plus les pécheurs seront rebelles. Mais que les pécheurs soient rebelles, qu'ils se fassent monter la tête par les syndicalistes et tout ce que vous voudrez, qui poussent à la rébellion contre le pays, ils résistent à Dieu. Mais les chrétiens, ne résistons pas à Dieu dans l'Église. Si vous vivez dans le péché, mais osez vous prendre position. Vous voulez vivre dans l'adultère, dans la fornication, eh bien restez-y dans votre adultère. Vous voulez vivre les jeunes dans la fornication. Mais restez-y. Mais ne venez pas souiller le temple de Dieu. Amen. C'est biblique ce que je vous dis. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que j'invente quelque chose par souci de sanctification? C'est écrit que celui qui se souille, eh bien il se souille. Si vous voulez regarder vos cochonneries sur Internet, mais regardez-les. Mais ne venez pas souiller le temple du Seigneur. Ou alors repentez-vous. C'est pareil pour Caïn, c'est pareil pour Saül, c'est pareil pour vous, c'est pareil pour moi. On doit choisir. Dès qu'il y a repentance, il y a relèvement. Si vous vous repentez, c'est pour ça qu'on va prendre la Sainte Cène. Il faut dire, Seigneur, c'est vrai, je vais apprendre, je vais me tenir à carreau, je vais réfléchir. Moi, le premier, je me sens concerné. Pourquoi? Je vous le dis, c'est peut-être pas bien de le dire, mais il y a quelque temps, j'ai passé une dizaine de jours dans le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que je sens bien que le Saint-Esprit veut bénir l'Église. Et un matin, je me suis réveillé avec ce cantique. Par ta puissance, brise sous mes ma résistance. Je savais bien à qui Dieu parlait ce matin-là. Je savais bien que ce n'était pas pour monsieur un tel, c'était pour moi. Et j'ai réfléchi et j'ai compris que ce sujet, il fallait que je le partage avec vous. Dès qu'il y a repentance, Dieu relève. Je vous le dis, ça prend le temps que vous le disiez. Vous êtes dans le péché le plus grossier qui soit, vous demandez pardon, la seconde après, vous êtes pardonné. Mais si vous vous appliquez à rester dans votre péché, vous en souffrirez le temps que vous résisterez. Mes frères et sœurs, c'est sérieux. Et il ne faut pas être entêté. Vous avez vu Saül, vous avez vu Caïn, et on pourrait prendre d'autres exemples dans la parole de Dieu. Mais comment nous parlons justement? Je parlais des parents, j'y reviens les jeunes. Vous qui avez vos parents, comment vous parlez de vos parents? Comment vous leur parlez? Ça ne veut pas dire, ça n'empêche pas parfois une blague. Moi j'ai encore mes parents, et ma mère, je peux vous dire, des fois je la fais bisquer un peu. Mais c'est pour la faire rire. N'enlevons pas l'humour de nos conversations. Attention, ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais comment parlons-nous? Comment parlez-vous de votre patron? Comment parlez-vous de votre patron? Eh ouais. Vous allez me dire, ouais, il gagne du pognon sur mon dos. Non, non. Vous pouvez nourrir votre famille grâce à lui. C'est peut-être pas la même chose, voyez. C'est grâce à lui. Et la rébellion, c'est le caractère du diable. C'est ce qu'il veut imprimer dans l'Église. On pourrait aller loin, mais très, très, très loin dans cette affaire. Et nous devons supplier à Dieu qu'il illumine les yeux de mon cœur. De nos cœurs. Est-ce que c'est important pour vous? Seigneur, ouvre mes yeux. Ne nous contentons pas de la bénédiction qu'il y a. Elle y est, la bénédiction. Et vous savez que Dieu vous gardera, même si on n'obéit pas. Mais c'est ça qu'on veut? On veut juste jouer des coudes jusqu'à la fin? Ou est-ce qu'on voudrait voir la gloire de Dieu? Il faut demander, parce que l'iniquité va grandir et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais on n'est pas obligé de faire ce choix. C'est une prophétie, c'est ce qui arrivera. Mais il y aura aussi plein de vainqueurs sur la terre. Est-ce que vous voulez faire partie de ces vainqueurs? Et le seul moyen, mes frères et sœurs, il n'y a qu'un moyen, c'est l'amour de la vérité. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés recevront une puissance d'égarement. Et ça, c'est valable pour les pasteurs, surtout pour les pasteurs, et c'est valable pour les églises. C'est écrit, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, je leur ai envoyé une puissance d'égarement. Vous croyez que c'est Dieu qui égare? Mais non, c'est comme quand Dieu dit, mais je les ai livrés à l'impureté, à l'impudicité. Mais non, c'est les hommes qui s'abandonnent eux-mêmes, mais comme ils transgressent une loi de Dieu, c'est comme si c'était Dieu qui l'avait fait. Quand un cas prend un virage à 160, alors qu'il y avait un panneau 70, on peut dire, ben Dieu l'a livré à l'accident. En vérité, c'est il a transgressé une loi de Dieu. Et c'est pour cela que nous ne nous rendons pas compte de certaines choses. Alors nous voulons le réveil, nous voulons voir la gloire de Dieu. Certains ont le toupet de dire, ouais, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Eh bien, on ferait bien chacun de balayer devant sa porte et de voir si on ne résiste pas à Dieu. Alors je vais vous demander quelque chose, parce que je vois que je n'ai pas le temps. Vous lirez cette famille, cette semaine, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites-le. Vous lirez dans le livre des Nombres, le chapitre 22, 23, 24 et 25. S'il vous plaît, faites-le. Vous le méditez et vous allez voir ce qui s'est passé. Je vous l'expliquerai. Parce que comme j'en parlais ce matin avec mon épouse, c'est quand même à moi d'expliquer ces choses à l'église. Parce qu'on ne peut pas au début comme ça le comprendre. Mes frères et sœurs, vous lirez le livre des Nombres. S'il vous plaît, je vous en supplie. Faites-le en genoux s'il le faut, en priant, et vous allez voir comment on peut ouvrir la porte au diable tout en étant un grand prophète. Vous connaissez Balaam? Balaam, c'était un homme, quand il parlait, la vérité de Dieu sortait de sa bouche. C'était comme ça, c'était l'homme de Dieu. Quand il disait quelque chose, ça s'accomplissait. C'est extraordinaire. Et un jour, le roi Balak a vu la bénédiction qu'il y avait sur Israël. Et le roi Balak a eu peur d'Israël. Et il a commencé à les envoyer des gars, des officiers, chez cet homme, et dit, écoute, voilà, ça serait bien que tu maudisses Israël. Parce qu'il ne voulait pas se confronter à Israël. Et donc, il lui a dit, je vous le résume, mais vous le lirez, vous verrez vraiment. Et donc, il n'a pas accepté, oh, non, je ne dirai que ce qui doit sortir de la bouche de Dieu. Et il va le faire, on va juste lire peut-être un verset ou deux pour que vous compreniez mieux le texte. Mais vous verrez comment l'Église peut ouvrir la porte aux puissances des ténèbres. Nombre chapitre 22, verset 6. « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre, et je chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis et médis est béni, et que celui que tu maudis est boni. » Au verset 12, Dieu dit à Balaam, bon, il a passé la nuit à réfléchir, ça commençait déjà, c'était pas bon signe. « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Voilà. Alors après, l'autre, il va insister, il va lui proposer de l'or, des biens considérables, etc. Verset 17, je te rendrai beaucoup d'honneur, je ferai tout ce que tu me diras, vas-y, je te prie, maudis-moi le peuple. Alors ça va continuer, et bien sûr, il ne va pas pouvoir. Il va bénir le peuple. Pourquoi ? Pourquoi ? Verset 20 du chapitre 23. Verset 8, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit ? Israël était vraiment dans un esprit d'obéissance. Verset 20, « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il l'a béni, je ne le révoquerai point. Je n'aperçois pas... » Regardez bien ce que Dieu dit. Je l'ai souligné, ça. « Il n'aperçoit pas d'iniquité en Israël. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. » Verset 23, « L'enchantement, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. » Et vous voyez la suite, et vous voyez la suite, et vous voyez la suite. Au chapitre 25, le brave prophète, il a trouvé une idée. Quel drame! Il a trouvé une idée. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche. Vous avez vu quand on accepte l'immoralité dans l'Église, la fornication? À se livrer à la débauche avec les filles de Moab, elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, le peuple mangea, se prosterna devant leur Dieu, etc., etc. Regardez le verset 9. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Et l'idée, elle venait bien du prophète. Regardez dans l'Apocalypse. C'est même écrit dans l'Apocalypse pour nous mettre en danger contre l'immoralité, l'adultère, la fornication, tous ces péchés grossiers et l'idolâtrie. Regardez, c'est grave. Quand on le lit, on ne fait pas attention. Mais quand on sait ce que ça a provoqué, Apocalypse 2, verset 14, et c'est enseigné ça. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui enseignent que ce n'est pas grave si des jeunes, à partir du moment qu'ils s'aiment, qu'ils sont fidèles, s'ils vivent ensemble, s'ils sont pacsés, ils sont en accord avec la loi. Vous êtes peut-être en accord avec la loi avec des hommes, vous n'êtes pas en accord avec la loi de Dieu. Bien sûr, si vous préférez la loi des hommes, vous verrez quand vous passerez devant Dieu qu'il y aura quand même une certaine incidence. Apocalypse 2, 14. « Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de... » C'est devenu une doctrine, ça. C'est accepté. De Balaam. C'est prêché aujourd'hui, et ça le sera de plus en plus. Et si vous voulez trouver des églises où on accepte la fornication, vous en trouverez, vous inquiétez pas. Qui enseignait, regardez bien, à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Voilà ce qu'est devenu le grand prophète par amour de l'argent. Pour avoir une immense richesse, il a dit à Balak, écoute, moi je ne peux pas le maudire. L'enchantement, la sorcellerie, tu ne pourras rien faire contre Israël. Rien faire. Ils ont échappé à la malédiction de la sorcellerie et de la divination et ils ont été décimés à cause de leur désobéissance. Vous entendez ? Ils ont échappé à la malédiction de la sorcellerie et ils ont été décimés par leur propre désobéissance. Je le répète. Ils ont échappé à la sorcellerie, à la malédiction, et ils se sont fait avoir par leur propre désobéissance, parce que le pasteur leur a dit, « Écoute, il y a une solution, il faut qu'ils pêchent. T'envoies des jolies femmes dans leur troupe, avec leurs idoles, et tu verras. » Et ils ont été décimés. Et il a fallu qu'une chose, vous le lirez, une obéissance radicale. La plaie s'est arrêtée à cause d'un homme qui est resté gravé dans l'histoire d'Israël, qui s'appelle Phinehas. Pourquoi Éléazar? Parce qu'il a choisi de trancher dans le péché. Mes frères et sœurs, est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu dans l'Église? Et il faut qu'individuellement, je parle aux baptisés, si vous n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas concerné, à moins que vous vouliez vous devenir un chrétien. Mais les chrétiens, de grâce, le Seigneur me l'a montré, pour moi, j'ai résisté à Dieu tout en recevant continuellement des éloges, monsieur Gou, c'est bien, c'est gentil, merci. Mais je peux vous dire que je préférerais recevoir les éloges du Seigneur et devenir un ami de Dieu en ne lui résistant plus. Car la résistance est coupable, comme la sorcellerie et la divination. Alors, je n'ai pas tout dit, on continuera mardi. C'est un sujet extrêmement sérieux. J'ai prêché longtemps ce matin, c'est vrai. On va prendre la Sainte-Seine. Ça nous demande de choisir. Dieu a dit à Caïn, choisis. Est-ce qu'on peut se recueillir, mes frères et sœurs? Vous avez vu, le diable, il ne peut pas nous toucher si on obéit. Alléluia! Le diable ne peut pas, les sorciers ne peuvent pas nous atteindre si nous obéissons à Dieu. Il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers, de la sorcellerie, bon. Mais s'ils obéissent, je peux vous dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur. La malédiction n'a aucun pouvoir sur une église qui obéit. C'est pour ça qu'il nous faut veiller dans l'église à ce qu'il n'y ait pas de fornication, d'adultère, d'idolâtrie. Et si vous vous vivez dans le péché, je vous en supplie. Je vous dis comme Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, et bien surmonte le mal par le bien. Choisissons quelques frères, s'il vous plaît, monsieur de Dieu Olivier. Choisissez quelques frères. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Plusieurs vous dites, oh Seigneur, montre-nous ta gloire. Seigneur, tu as dit à Marthe et à Marie, si tu crois, tu verras la gloire. On ne voit pas ta gloire. On voit des chrétiens qui rétrogradent. On voit des chrétiens qui sont toujours découragés, dans la défaite, timides, paresseux, des vierges folles, des gens qui en poussent. Voilà ce qu'on voit dans l'église. Ce matin, il y a trois frères qui sont partis prêcher dans des églises parce qu'il n'y a plus de pasteurs. Janson est parti à Auch. Raymond est parti à Mazamé, Jérémy est parti à Pamiers, et à la rentrée, ça sera beaucoup plus grave encore. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu, que ces églises qui étaient bonnes et belles, aujourd'hui soient divisées? La volonté de Dieu, c'est comme on l'a vu dimanche dernier, Dieu va planir les montagnes, et il le fera avec des chandeliers propres, avec des mèches propres, avec des conduits débouchés, où l'huile inépuisable de Dieu peut couler. Je m'adresse aux jeunes, je vous en supplie, vous qui portez des idoles dans votre cœur, vous qui êtes accro peut-être de l'high-tech, comme quelqu'un me le disait. Cette semaine, un frère m'a dit, j'ai été délivré de l'informatique. Ça détruisait mon foyer, ça détruisait notre vie de couple. Est-ce que vous vous rendez compte? Un chrétien. Mais il a pris la victoire parce qu'il a été sensible à Dieu. Et nous voulons voir la gloire de Dieu? C'est quoi que nous voulons chercher dans l'église? C'est quoi que vous êtes venu faire ce matin? Est-ce que vous êtes venu apporter le sacrifice des insensés? Est-ce que nous sommes venus juste pour tranquilliser notre conscience? Ou est-ce que nous sommes venus pour dire, Seigneur, je suis encore vivant sur la terre. Je voudrais être un instrument qui amènera la bénédiction et non pas la colère. Est-ce qu'on va s'ajouter aux païens pour attirer la colère de Dieu? Ou est-ce qu'on va s'ajouter au Saint-Esprit pour attirer la faveur divine? Cette semaine, on a parlé mal de Toulouse. Mais vous aimeriez pas qu'on en parle bien? Est-ce que c'est possible que Dieu veuille qu'on parle en bien de Toulouse? Le monde entier a été courant de Toulouse. Et s'il y avait des gens sur la terre qui ne connaissaient pas le nom de la ville, tout le monde a connu la ville cette semaine. Tout le monde. Mais moi, je me suis dit, Seigneur, je crois que tu pourrais faire en sorte qu'il y ait une grande joie dans cette ville. Comment? Avec des chrétiens qui obéissent à Dieu. Les jeunes, je m'adresse aux jeunes parce que je sais que beaucoup ne sont pas tout à fait convertis. J'ai honte, je le dis vite, mais c'est vrai. Il y a des jeunes qui ne sont pas convertis, ils ont pris le baptême parce que papa les a poussés, parce que le pasteur les a encouragés, parce qu'ils croient en Jésus, mais il n'y a eu aucune conversion, aucune communion. Mais les jeunes, vous qui avez pris le baptême, ne voulez-vous pas ce matin dire, c'est vrai, je t'ai résisté, je porte des idoles, je ne connais plus les footballeurs ou les rugbymen que le nom des 12 apôtres, et c'est une image. Mais qui ce matin veut prendre la victoire et dire, Seigneur, je ne te résisterai plus? Je croyais résister au diable, mais quelle honte! Quelle honte! Je croyais résister au diable avec ma super foi, et je me rends compte que j'étais résisté. Alors levez-vous, mes frères et sœurs. Vous qui avez accepté Jésus-Christ, comment voulez-vous prendre ce pain et ce vin? Jésus a institué la Sainte-Seine pour qu'on prenne la victoire également. C'est une victoire, la croix. Ce pain représente le corps brisé. Oui, ça n'a pas été. Oui, ça n'a pas été bien. Jusqu'à aujourd'hui. Mais Seigneur, ce matin, je me ressaisis. Je me ressaisis, Seigneur. Je ne veux pas ressembler à Saül, à Caïn. J'entends ta voix qui me dit, oui, surmonte le mal par le bien. Brise ma résistance à tout jamais. Levez-vous, frères et sœurs, vous qui êtes baptisés. Vous qui avez accepté Jésus-Christ comme sauveur. Vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Est-ce que vous voulez qu'il règne dans votre vie? Moi, je veux qu'il règne dans la mienne. Pas parce que je suis pasteur, mais parce que je suis d'abord son enfant. Qui veut véritablement ce matin dire « j'arrêterai de te résister » ce soir, demain, attention à ce que vous faites, aux choix que vous faites, à ce que vous regardez, à ce que vous dites, à vos paroles, à vos réponses. Tout ça peut contribuer à résister à Dieu. Mes frères et sœurs, soyons sérieux. Louons, prions, faisons-le avec ordre, mais que Dieu nous accorde la victoire dans ce moment.